Voici une question dont on a tous besoin de connaître la réponse. Est-il possible qu'une prostituée puisse être un exemple de foi réelle? La parole de Dieu va nous donner une réponse qui va peut-être en faire sursauter quelques-uns aujourd'hui à l'émission À travers la Bible.
Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647.
Bonjour, ici Caro. Je crois qu'on a des questions dont les réponses vont servir à nous fortifier dans la foi aujourd'hui. On en a besoin dans les jours où nous sommes, n'est-ce pas? Voici les questions. Qui est-ce qui obtient les victoires pour nous? Qu'est-ce que la foi véritable? Devons-nous être constamment remplis du Saint-Esprit? Est-ce que nos préoccupations matérielles peuvent nous empêcher de jouir des bénédictions de Dieu? De quoi le fleuve du Jourdain et la traversée du Jourdain sont-ils des images? Est-ce que le fait d'avoir la foi nous permet d'être négligents dans notre travail pour le Seigneur? Comment une prostituée peut-elle être un exemple de foi? Demeurez à l'écoute. La parole de Dieu va répondre à toutes nos questions par la bouche du pasteur Régent Joly dans quelques instants. Mais premièrement, prions. Seigneur, je viens te demander de disposer nos cœurs, d'enlever de nos pensées toutes les choses de notre quotidien afin qu'on soit concentré sur toi, sur ta parole, et viens nous enseigner, mon Dieu. Amen. À toi, Régent.
Merci beaucoup, Caro. Mes amis, à la dernière émission, nous avons débuté l'étude du livre de Josué. Ce livre suit les 5 livres du Pentateuque rédigés par Moïse. Dans la Genèse, nous avons la naissance de la nation d'Israël. Dans l'Exode, la nation est choisie par Dieu. Dans le livre des Nombres, elle est éprouvée. Dans le Lévitique, elle est rapprochée de Dieu par les sacrifices. Dans Deutéronome, Dieu enseigne la nation. Maintenant, dans le livre de Josué, nous voyons des conflits et la conquête de la terre promise. La conquête de la terre promise est une image de la vie du croyant qui saisit les bénédictions célestes que Dieu lui a données. Dans le Nouveau Testament, c'est l'épître aux Éphésiens qui correspond au livre de Josué. Nous avons hérité de bénédictions dans les lieux célestes et dans le livre de Josué, nous apprenons comment nous les approprier. Nous verrons les similitudes au fur et à mesure que nous progresserons. Le verset 3 du premier chapitre est le verset clé du livre. « Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. » Quoique Dieu ait donné à Israël les titres de propriété de la terre promise, le peuple devait se l'approprier en y entrant. Pour jouir de leur possession et en goûter les fruits, le peuple a dû pénétrer dans le pays et l'occuper. C'est Dieu qui obtient les victoires pour nous. Pour l'occuper, Israël a dû combattre des ennemis et pour jouir des fruits du pays, les Israélites ont dû semer la terre. Mais qui est-ce qui a fait cela? Le peuple lui-même ou Dieu? Bien, nous lisons dans l'Épître aux Éphésiens, « Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. » Éphésiens chapitre 4, verset 1er. Si vous et moi désirons jouir des bénédictions que Dieu accorde aux siens, nous devons marcher selon les voies de Dieu. Nous devons marcher en toute humilité et douceur, avec patience, nous supportant les uns les autres avec charité, nous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Éphésiens chapitre 4, verset 2. Autrement dit, ce qui est important, c'est ce que Dieu fait à travers nous. En fait, nous devons parler comme le psalmiste. Non pas à nous, Éternel, non pas à nous. Mais à ton nom, donne gloire à cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. Le psaume 115, verset 1er. Ce n'est pas nous qui obtenons les victoires, c'est Dieu. nous obtenons simplement la possession des bénédictions. L'apôtre Paul a dit à un jeune prédicateur, « Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit, qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur. » Tite, chapitre 3, versets 5 et 6. « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Éphésiens chapitre 2, versets 8 et 9. Qu'est-ce que la véritable foi? C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. Hébreux chapitre 11, verset 8. Si Abraham était demeuré à Ur, en Chaldée, et qu'il aurait affirmé croire Dieu, cela n'aurait rien voulu dire, chers amis. Il a obéi à Dieu et s'est mis en marche. Voilà ce qui a véritablement démontré sa foi. Faire confiance à Dieu, c'est se remettre entre ses mains. Josué a cru Dieu, et Dieu l'a encouragé en lui demandant d'entrer dans la terre promise. Josué tirait son autorité de la parole de Dieu. Il doit étudier, méditer la parole et l'observer. C'est cela la véritable foi. Maintenant, débutons notre lecture, chers amis. Josué, chapitre 1, verset 10. Josué donna cet ordre aux officiers du peuple. Josué a pris la direction du peuple, mais pas de façon présomptueuse, mais avec confiance, parce qu'il obéissait à Dieu. Dieu avait dit à Moïse qu'il serait avec lui. Lorsque Moïse est retourné en Égypte, après un long séjour dans le pays de Madian, il était craintif, mais Dieu lui a dit, « Va donc, je serai avec ta bouche, et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. » Exode, chapitre 4, verset 12. C'est ainsi que Dieu agit. Lorsque Dieu a appelé Jérémie, lors du temps très difficile, il lui a dit, « Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. » Jérémie, chapitre 1, verset 19. « Nous avons besoin de l'assurance et du courage dont on parle dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 13, verset 6. » C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, « Le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien que peut me faire un homme. » C'est une citation des paroles de David rapportées dans le psaume 118, verset 6. Lorsque David a dit ces mots, son cœur et son esprit étaient tournés vers le Dieu vrai et vivant. Il a reconnu le lien spirituel entre lui et Dieu. Il pouvait dire que le Seigneur était son aide. David savait que Dieu pouvait le protéger et le délivrer. Verset 11. Parcourez le camp. Et voici ce que vous commanderez au peuple. Préparez-vous des provisions, car dans 3 jours vous passerez ce Jourdain pour aller conquérir le pays dont l'Éternel, votre Dieu, vous donne la possession. La terre promise appartenait à Israël sans aucune condition, mais la possession et la jouissance du pays étaient sujettes à des conditions. Israël devait prendre le pays. Le mot-clé du livre de Josué n'est pas « victoire » comme certains le proposent, car la victoire vient de Dieu. Le mot-clé est « possession ». Israël devait prendre possession du pays. Il faut réclamer la puissance de l'Esprit chaque jour. Lorsqu'Israël a pénétré dans la terre promise, la manne a cessé de tomber et le peuple a mangé les produits du pays, des produits qui avaient été pris de l'ennemi. Israël a saisi des produits entreposés car il n'avait pas encore eu l'occasion de semer les terres. Vous devez vous rappeler que le peuple devait ramasser la manne chaque matin car elle ne se conservait pas jusqu'au lendemain. C'est pourquoi la parole nous dit dans Éphésiens chapitre 5 verset 18 d'être remplis de l'Esprit. Chers amis, nous ne sommes pas remplis de l'Esprit une fois pour toutes. Vous n'allez pas à un poste d'essence pour demander au préposé de faire le plein et de sceller le réservoir, parce que vous ne manquerez plus jamais d'essence. Ce serait présomptueux de votre part. Ce serait idiot. Cependant, de nombreux chrétiens pensent qu'ils peuvent tout régler en ayant une seule expérience avec Dieu. Mes amis, si vous voulez marcher avec Dieu et vivre pour sa gloire, vous devez faire le plein du Saint-Esprit quotidiennement. Puisque nous avons besoin de 3 repas par jour, aller à Dieu dans la prière au moins 3 fois par jour est peut-être une bonne idée. Nous devons constamment être remplis du Saint-Esprit, s'attendre à lui et s'appuyer sur lui. Verset 12. Josué dit aux Rubénites, aux Gadites et à la demi-tribu de Manassé. Vos préoccupations matérielles vous empêchent-elles de jouir des bénédictions de Dieu? 2 tribus et 1/2 ont décidé de demeurer du côté est du Jourdain. Moïse était encore vivant lorsqu'elles ont décidé de ne pas suivre les autres tribus dans la terre promise. Les fils de Ruben et les fils de Gad avaient une quantité considérable de troupeaux, et ils virent que le pays de Jaézer et le pays de Galaad étaient un lieu propre pour les troupeaux. Alors, les fils de Gad et les fils de Ruben vinrent auprès de Moïse, du sacrificateur Éléazar et des princes de l'assemblée, et ils leur dirent, « Si nous avons trouvé grâce à tes yeux, que la possession de ce pays soit accordée à tes serviteurs, et ne nous fais point passer le Jourdain. » Nombre chapitre 32, versets 1, 2 et 5. En fait, ils demandaient la permission de demeurer du mauvais côté du Jourdain. Lorsque Jésus vint dans ce territoire, leurs descendants élevaient des porcs, une viande considérée impure par la loi mosaïque. En fait, ces gens demandèrent à Jésus de quitter leur territoire après que les démons eurent pris possession des pourceaux qui se sont jetés à la mer. Et vous, est-ce que vos préoccupations pour les biens matériels vous empêchent de jouir des bénédictions spirituelles? Versets 13 à 15. Rappelez-vous ce que vous a prescrit Moïse, serviteur de l'Éternel, quand il a dit « L'Éternel, votre Dieu, vous a accordé du repos et vous a donné ce pays. Vos femmes, vos petits-enfants et vos troupeaux resteront dans le pays que vous a donné Moïse de ce côté-ci du Jourdain. Mais vous tous, hommes vaillants, vous passerez en armes devant vos frères et vous les aiderez, jusqu'à ce que l'Éternel ait accordé du repos à vos frères comme à vous, et qu'ils soient aussi en possession du pays que l'Éternel, votre Dieu, leur donne. Puis vous reviendrez prendre possession du pays qui est votre propriété, et que vous a donné Moïse, serviteur de l'Éternel, de ce côté-ci du Jourdain, vers le soleil levant. » Josué rappelle aux 2 tribus et 1/2 qu'elles avaient obtenu la permission d'occuper le pays qu'elles désiraient à la condition d'aider les autres tribus à prendre possession de la terre promise. Versets 16 à 18. Ils répondirent à Josué en disant, « Nous ferons tout ce que tu nous as ordonné, et nous irons partout où tu nous enverras. Nous t'obéirons entièrement comme nous avons obéi à Moïse. Veuille seulement, l'Éternel, ton Dieu, être avec toi comme il a été avec Moïse. Tout homme qui sera rebelle à ton ordre et qui n'obéira pas à tout ce que tu lui commanderas sera puni de mort. Fortifie-toi seulement et prends courage. » La traversée du Jourdain est une image de la mort et de la résurrection du Seigneur Jésus. La rivière ne parle pas de notre mort physique. Les paroles d'un chant suggèrent que le chrétien se tient près des eaux tumultueuses du Jourdain. Premièrement, le Jourdain n'est pas une rivière tumultueuse. Pendant la saison chaude, elle est à peine un petit ruisseau. Seul Christ a pris sur lui la colère de Dieu contre nos péchés en allant à la croix. C'est lui qui fut jugé pour nos péchés. La rivière du Jourdain est une image de la sanctification, et Jésus-Christ est mort pour notre sanctification. Plutôt que de faire comme les 2 tribus et 1/2, soit de rester du mauvais côté du Jourdain pour se préoccuper de choses matérielles, traversons le Jourdain et jouissons du repos que Dieu nous accorde dans la terre promise. Maintenant, nous passons au chapitre 2 où nous faisons la connaissance de Rahab, une femme louche. Elle était une prostituée. Ce qui est remarquable, c'est qu'elle est citée comme un exemple de personne de foi dans l'Épître aux Hébreux. C'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles, parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Hébreux, chapitre 11, verset 31. Souvent, on réfère aux personnages bibliques cités dans Hébreux, chapitre 11, comme étant des héros de la foi. Je n'aime pas cette description, car elle place l'accent sur les personnes plutôt que sur la foi de ces personnes. La vie de ces personnages illustre ce que la foi a fait dans leur vie, qu'importe la période au cours de laquelle ils ont vécu, qu'importe leurs circonstances. Cela signifie que la foi peut en faire autant pour nous, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Citation de Hébreux, chapitre 12, verset 1er. Un autre fait au sujet de Rahab est remarquable. Elle est une ancêtre du Seigneur Jésus-Christ. Elle est mentionnée au verset 5 de la généalogie du Seigneur donnée au premier chapitre de l'Évangile selon Matthieu. C'est à cause de sa foi que son nom se retrouve dans cette liste. Ce chapitre nous présente une femme vraiment remarquable. Revenons à notre texte, Josué 2, verset 1er. Josué, fils de Nun, fit partir secrètement de Sittim deux espions, en leur disant « Allez, examinez le pays, et en particulier Jéricho. » Ils partirent, et ils arrivèrent dans la maison d'une prostituée qui se nommait Rahab, et ils y couchèrent. Deux espions sont envoyés examiner le pays. Nous pourrions penser que c'est une répétition de l'erreur faite à Kadès-Barnéa, alors que les espions sont revenus avec un mauvais rapport. Cependant, il y a une différence importante. Ces espions ne sont pas envoyés pour voir si Israël peut prendre le pays, mais pour déterminer la meilleure façon de prendre le pays. Le but visé est entièrement différent de Kadès-Barnéa. La foi n'exclut pas le bon sens, chers amis. De plus, le fait que des chrétiens participent à un ministère et qu'ils forment une équipe qui marche par la foi ne les exempte pas de planifier et de gérer sagement les projets. Ils ne doivent pas hésiter à prendre les bons moyens pour parvenir à leur fin. La foi n'exempte pas d'agir de façon raisonnable et sensée. En fait, la foi devrait donner un zèle aux chrétiens dans leur travail. Certains chrétiens pensent qu'ils peuvent être négligents dans leur planification et leur travail puisqu'ils mettent leur foi en Dieu. Josué et Israël avaient la foi. Ils avaient déjà vaincu deux peuples. Cependant, cela n'a pas empêché Josué d'envoyer deux espions pour préparer la prise de Jéricho. La foi de Josué ne l'a pas fait marcher à l'aveuglette. Cependant, la foi de Josué et du peuple lui a donné du zèle et de l'assurance pour servir Dieu. Voyez-vous, la foi n'exclut pas les préparatifs. Rahab, une citoyenne de Jéricho, a ouvert sa demeure aux espions. C'est ce que nous lisons au verset 2 à 8. On dit au roi de Jéricho, « Voici, des hommes d'entre les enfants d'Israël sont arrivés ici, cette nuit, pour explorer le pays. » Le roi de Jéricho envoya dire à Rahab, « Fais sortir les hommes qui sont venus chez toi, qui sont entrés dans ta maison, car c'est pour explorer tout le pays qu'ils sont venus. » La femme prit les deux hommes et les cacha, et elle dit, « Il est vrai que ces hommes sont arrivés chez moi, mais je ne savais pas d'où ils étaient. Et comme la porte a dû se fermer de nuit, ces hommes sont sortis. J'ignore où ils sont allés. » « Hâtez-vous de les poursuivre, et vous les atteindrez. » Elle les avait fait monter sur le toit et les avait cachés sous des tiges de lin qu'elle avait arrangées sur le toit. Ces gens les poursuivirent par le chemin qui mène au gué du Jourdain, et l'on ferma la porte après qu'ils furent sortis. Avant que les espions se couchent, Rab monta vers eux sur le toit. Rab était une grande pécheresse. Cependant, remarquez que cela ne fut pas une barrière au pardon et à la miséricorde de Dieu. Le Nouveau Testament mentionne Rab à deux reprises. Nous avons déjà vu que l'auteur de l'Épître aux Hébreux a cité la femme en exemple pour sa foi. Maintenant, c'est Jacques qui mentionne Rab dans son Épître. Rab, la prostituée, ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle les fit partir par un autre chemin? Jacques, chapitre 2, verset 25. Rab n'a pas fait simplement croire qu'Israël prendrait le pays et souhaiter bonne chance aux espions. Elle a pris une part active à leur travail. Elle les a aidés à retourner vers leur peuple. Puisqu'elle croyait vraiment que Dieu donnait le pays à Israël, elle a agi en conséquence. Nous voyons aussi la providence de Dieu dans le récit de Rab. Les deux espions avaient besoin d'une cachette, et Dieu s'est servi de cette femme. Elle n'était sûrement pas la seule prostituée dans la ville, mais Dieu a permis que les espions aillent vers elle, et il avait déjà disposé le cœur de cette femme à secourir les hommes au péril de sa vie. Rab mentit délibérément à son roi afin de protéger les deux espions. Elle a fait cela au risque de sa propre vie. Pourquoi a-t-elle ainsi risqué sa vie? Rien ne l'y forçait. Elle pratiquait un métier dans lequel on pouvait se permettre bien des choses. Pourquoi a-t-elle menti à son peuple afin de protéger les deux espions? Ne devait-elle pas respecter les autorités de sa ville comme le demande la parole de Dieu? Peut-on approuver ce qu'elle a fait? Nous répondrons à cette question à la prochaine émission. De plus, nous traiterons d'un élément clé au sujet du sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Une vérité que nous devons comprendre, que l'Esprit doit nous révéler si nous désirons être libres de tout péché compulsif. Nous nous rendrons jusqu'au verset 18 du chapitre 4. Donc, nous ne lirons que des extraits. Je vous invite à lire de Josué chapitre 2 verset 8 à chapitre 4 verset 18 pour la prochaine émission, alors que nous verrons des titres comme « Il faut obéir à Dieu avant d'obéir aux hommes ». Que Dieu est lent à la colère, il appelle le pécheur à se repentir de son péché et à se tourner vers son Fils bien-aimé, le Seigneur Jésus-Christ, afin d'implorer son pardon. Ainsi que cette belle grande vérité, que la véritable foi en est une qui agit. Avez-vous cette foi qui sauve? La véritable foi, celle qui prend Dieu au mot et qui se met en action selon ce qui est écrit. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Est-ce que vos actions sont basées sur la parole de Christ? La seule façon d'avoir des actes qui honorent Dieu, des actes qui lui sont agréables, ce sont des actes basés sur la parole de Dieu, c'est-à-dire l'obéissance. Et le premier pas d'obéissance, c'est de recevoir Christ comme Sauveur et Seigneur. C'est le premier pas à faire envers Dieu. Est-ce que tu as reçu Christ comme ton Sauveur personnel? Fais-le maintenant. Chers amis, préparez-vous pour la prochaine émission, Josué chapitre 2 verset 9 à chapitre 4 verset 18.
Oh, merci beaucoup, Régent. Quand on lit la parole de Dieu, je crois qu'on s'identifie tous un peu plus à certains personnages qu'à d'autres. C'est mon cas aujourd'hui en regardant Rahab, la prostituée. Oh, je n'ai jamais été une prostituée, mais par contre, avant de connaître le Seigneur, j'avais un sens moral très libertin, c'est-à-dire bien contraire à ce qu'enseigne la parole de Dieu. J'ai eu plusieurs relations avec des hommes lesquels étaient complètement contraires à ce que Dieu attend de sa créature. Et aujourd'hui, Régent nous a lu dans l'Épître de Jacques que Rahab, la prostituée, a été justifiée par les œuvres quand elle a reçu les messagers et qu'elle les a fait partir par un autre chemin. Elle a eu la foi qu'Israël prendrait le pays et elle a pris une part active à leur travail. Elle les a aidés à retourner vers le peuple, sachant que Dieu lui donnait le pays. Oh, je n'ai pas fait la même chose que Rahab, mais moi aussi j'ai manifesté ma foi, en recevant Jésus comme sauveur et maître de ma vie, sachant qu'avec tous ceux qui ont la foi en Jésus-Christ, j'entrerai dans le pays, c'est-à-dire dans la vie que Dieu donne à tous ceux qui placent leur confiance en Jésus-Christ, pour obtenir le don gratuit de la vie éternelle. Cette vie éternelle, je la vis déjà sur cette terre. Je suis en terre promise, comme Réjean nous l'a enseigné aujourd'hui dans la leçon. Il nous expliquait que la terre promise n'est pas une image du ciel, mais elle symbolise les circonstances dans lesquelles se trouvent les croyants dans le monde. Mais je sais aussi qu'un jour, je vais aller au ciel. Ce don gratuit que j'ai reçu par la grâce de Dieu en acceptant Jésus comme Sauveur et Seigneur. Entre-temps, eh bien, je marche par la foi avec tous mes frères et sœurs en Jésus-Christ, tout comme Rahab, la prostituée, et comme tous les héros de la foi que Réjean a aussi mentionné aujourd'hui. Ils nous servent d'exemple. C'est pas merveilleux, ça? Mon ami, as-tu la foi? As-tu cette foi qui est nécessaire pour être sauvé, pour être certain que tu iras au ciel un jour, pour passer l'éternité avec Dieu? La vraie foi, c'est d'avoir confiance en Jésus seul pour avoir la vie éternelle. Il est écrit dans le livre des Actes, au chapitre 16, verset 31, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. » Crois-tu au Seigneur Jésus? Crois-tu que c'est pour toi personnellement qu'il a souffert, qu'il est mort sur la croix pour payer la dette de tes péchés? Moi, je crois que c'est pour moi personnellement qu'il l'a fait. Oh, mon ami, tu ne peux pas te sauver toi-même. Même si tu es une personne très religieuse, même si tu fais beaucoup de bien autour de toi, même si tu souffres, tu ne peux pas te sauver toi-même. Dans l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 3, verset 23, il est écrit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Voilà la mauvaise nouvelle. Mais il y a une bonne nouvelle. Au verset suivant, je le dis souvent, mais je vais le dire encore aujourd'hui, il est écrit qu'on est gratuitement justifié par la grâce de Dieu, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Demande à Jésus de te sauver. Crois-tu en lui? Demande-lui de te pardonner tes péchés. C'est ça qu'il a payé sur la croix. Et c'est certain qu'il va te donner cette vie. T'as juste à dire, Seigneur, sauve-moi, donne-moi la vie éternelle.
Réjean, je pense que les gens comprennent pas exactement c'est quoi un déjeuner de l'espoir. Pourrais-tu l'expliquer?
Avec joie, Caro. Les gens sont invités à venir participer à un déjeuner de l'espoir qui se déroule dans un restaurant. Un endroit où les gens sont habitués à venir. Qui n'a pas pris un repas dans un restaurant? C'est un lieu public. Alors, les gens viennent, ils y assistent et ils peuvent manger gratuitement.
Wow!
Gratuitement, en plus d'entendre un merveilleux témoignage, c'est ça qui fait que le déjeuner est merveilleux, c'est qu'il y a un témoignage d'une personne. Ça pourrait être toi, Caro, ou moi, ou une toute autre personne qui a vécu une expérience personnelle avec Dieu. Comment est-ce que Dieu a transformé, changé, je pourrais même dire bouleversé sa vie?
Eh oui! Dieu a vraiment bouleversé la mienne et j'aime ça raconter ça. J'aime ça aussi pouvoir chanter mes anciens succès. C'est le fun de voir les gens qui rient d'entendre toutes ces anciennes chansons-là. Et finalement, je leur dis ce que Dieu a fait pour moi. Puis c'est merveilleux. C'est bon dans mon cœur de l'annoncer aux gens combien Dieu les aime. Et ça se fait à la grandeur du Québec.
Comment peut-on savoir s'il y en a un près de chez nous?
Eh bien, vous pouvez nous rejoindre par téléphone.
1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647 ou via courriel
à www.radioespoir.ca ou à notre adresse postale.
Radio Espoir, casier postal 34-143 Charlebourg, province de Québec, G1G-6P2. Chers amis, au revoir.
Et à demain.
Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.